Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à Prolongation pour la deuxième heure de l'émission et cette fois-ci, nous irons en Alberta, à Red Deer, où se tient actuellement le camp d'entraînement de notre équipe nationale junior des moins de 20 ans. Camp qui a été suspendu. Deux cas de COVID dans l'équipe ont forcé la direction à envoyer tout simplement les joueurs à leur chambre d'hôtel respective. Le camp sera suspendu pour une période d'environ 14 jours. Allons retrouver dans la bulle, et là c'est le cas de le dire, c'est plus que dans la bulle, c'est dans le cloître, pour prendre l'expression, l'attaquant québécois Hendrix Lapierre des Saguenayens de Chicoutimi, premier choix des Capitals de Washington en octobre dernier. Hendrix, d'abord, bonjour, j'espère que ça va bien. Comment ça se passe pour toi actuellement?
Premièrement, ça va très bien. Je pense que c'est sûr que c'est plate un peu, tu sais, tu t'attends pas nécessairement à ça en arrivant à Red Deer. Puis en plus, moi, je venais d'en faire une à Chicoutimi, une quarantaine, fait que c'est sûr que le dernier mois il a été peut-être un peu long. Là, on dit qu'on n'a pas le droit d'aller dehors ou peu importe, mais ça va quand même, on essaie de se tenir occupé, puis je pense que justement c'est pas super. Hein.
Hendrix, là tu l'as dit, tu venais d'en faire une quarantaine, mais si je me trompe pas, t'en avais fait une autre avant quand vous avez planifié le retour à Chicoutimi, là, le retour au jeu, puis le camp d'entraînement, puis le début de l'année, là.
Au début de l'année, j'en avais pas fait de quarantaine tant que ça, je pense. T'sais, on faisait attention pis tout, mais c'était pas une quarantaine en tant que telle. Je pouvais aller dehors, puis donc c'était pas super. En ce moment, je suis vraiment pris dans ma chambre d'hôtel. Fait que c'est sûr que c'est pas je suis pas aussi libre que quand je faisais mes quarantaines à Chicoutimi ou peu importe, mais j'avais pas besoin d'en faire une avant le début de la saison.
Dis-moi, Hendrix, comment ça se passe une journée là dans le contexte actuel? Est-ce que tu restes dans ta chambre pour manger? Avez-vous un endroit pour aller? Est-ce que vous avez quand même un accès limité à certains endroits ou c'est vraiment 24 heures sur 24 dans votre chambre?
24 heures sur 24 dans nos chambres. On est rendu tout seul dans nos chambres. On n'a pas le droit de parler avec les autres gars tant que ça. On n'a pas de place où aller. Il faut qu'on reste dans nos chambres. On se fait apporter nos repas. Puis nos collations dans des boîtes de carton, puis on mange ça. Puis honnêtement, la nourriture est bonne, fait que c'est au moins il y a ça de positif. Mais non, on est vraiment pris dans nos chambres. T'sais, on essaie de se garder occupé. On a des entraînements virtuels, on a des meetings d'équipe. Fait que on essaie de se garder occupé ensemble parce qu'on sait que justement ça peut être long. Puis moi j'en profite pour faire de l'école ou des affaires comme ça. Fait que j'essaie d'en profiter justement parce que je sais qu'après ça j'aurai peut-être pas nécessairement beaucoup de temps.
Qu'est-ce que c'est un entraînement virtuel?
Ben c'est dans le fond notre préparateur physique, on faisait la même chose à Chicoutimi, notre préparateur physique lead un peu avec Zoom, mettons, virtuellement, là, puis on regarde okay. Ce qu'il fait, puis on a des exercices à faire, puis on se filme en le faisant, puis justement juste pour se garder occupé.
Okay. Hendrix, c'est probablement dur mentalement. Là, vous êtes qu'au début. Je sais pas si on se reparle dans une dizaine de jours, comment tu vas te sentir, mais je suis quand même curieux. Quand arrivera le 6 décembre, journée techniquement, vous pourriez retourner sur la patinoire, ça va être le temps de faire les bagages puis d'aller à Edmonton. D'ici là, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Avez-vous le sentiment que là, c'est vraiment plus dans vos mains, c'est-à-dire que vous pouvez pas nécessairement influencer les décisions en ayant une bonne pratique, en ayant un bon match intra-équipe. Il y a 4 matchs intra-équipe, si je me trompe pas, qui ont été annulés. Est-ce qu'à quelque part, c'est pas un peu frustrant de savoir que vous serez pas vraiment évalué sur la glace avant que les décisions soient prises?
Ben c'est sûr que c'est hors de notre contrôle un peu, mais c'est sûr que c'est plate. En plus, si tu me donnes la chance de jouer beaucoup de matchs ou pour me prouver ou de faire d'autres pratiques, peu importe, c'est sûr que je prends ça parce que dans notre chambre, justement, c'est tough de se faire évaluer un peu, mais non, c'est sûr que c'est pas l'idéal, justement, en tant que joueur qui essaie de se faire une place dans l'équipe. Tu peux pas faire grand chose dans ta chambre, tu essaies de t'entraîner du plus fort que tu peux puis de te préparer le mieux mentalement pour ce qui va arriver après, mais on a aucune idée de ce qui va se passer. Donc on essaie de se garder occupant, on s'entraîne fort, puis on fait comme si on allait jouer un match le 7 décembre en sortant de nos chambres. Fait que je te dirais que c'est quand même difficile de se garder motivé, puis tu te poses beaucoup de questions par rapport à ce qui va se passer. Ok, je vais-tu jouer des games en revenant, je vais-tu faire des pratiques, peu importe, mais en même temps, tu es ici pour gagner la médaille d'or, t'es ici pour être équipé Canada, puis je pense que ça fait partie du processus, même si c'est pas le fun.
Toi, le fait, Hendrix, que tu as eu, on connaît tes épisodes avec tes mots au cou, tout ça. Le fait que tu aies dû passer à travers un processus quand même qui est pas facile pour un joueur de hockey, surtout en jeune âge. Est-ce que tu penses que tout ce que tu as appris, ça t'aide actuellement dans la situation dans laquelle tu es? Parce que tu es un peu familier avec ça, être dans des situations d'attendre, de t'entraîner par toi-même. Toutes ces situations-là, est-ce que tu penses que ça te favorise par rapport à d'autres dans un contexte comme celui-là?
Je pense que ça peut pas être nuisible, c'est sûr. Tu sais, je pense que quand je m'étais blessé, j'avais mentionné à plusieurs reprises que j'allais pouvoir mieux dealer avec l'adversité, puis j'allais pouvoir justement savoir comment réagir dans cette situation-là. Puis c'est sûr que c'est pas dans le même contexte en ce moment. C'est totalement différent comme situation, mais ça reste que justement c'est de l'adversité. Il faut que tu sois prêt à faire face à ça. Puis je pense que c'est sûr que la saison passée m'a quand même peut-être un peu aidé par rapport à ça, tu sais, de se motiver tout seul, puis de pas être tout le temps avec tes coéquipiers, puis tout. C'est sûr. C'est sûr que ça peut m'avoir aidé. Tu sais, c'est de l'adversité. On va tout en vivre en tant que joueur de hockey. Aucun joueur qui en a pas vécu. Donc faut juste faire sûr de se garder justement sharp mentalement. Puis si on fait ça, je pense qu'il va pouvoir nous arriver des bonnes choses.
On est en conversation avec Hendrix Lapierre des Saguenayens, mais aussi de notre équipe nationale junior des moins de 20 ans à Red Deer. Hendrix, je veux te faire entendre un extrait de votre coach André Tourigny lors du point de presse qu'il a donné hier là, suite à l'annonce de la suspension du camp. Il parle un peu de ce que tu viens de parler dans le sens que ça va venir rejoindre beaucoup le caractère des joueurs, puis il y a peut-être une partie de l'évaluation qui va se faire là. On va écouter André Tourigny, je t'invite à l'écouter.
Ça prend des gars qui ont la volonté et qui sont prêts à passer à travers de l'adversité. Je pense que on en a parlé toute l'année, mais tant que t'es pas dedans, tu sais pas à quel point on va en avoir de l'adversité. Mais tu sais, la réaction de nos joueurs présentement me démontre qu'ils étaient prêts à l'adversité. Si on voit que y a des joueurs qui sont très affectés et qui ont de la difficulté à s'en remettre, c'est sûr que ça va être inquiétant parce que là, on a de l'adversité au niveau de la santé puis de la quarantaine, ces choses-là, mais on va avoir de l'adversité au hockey. Si on a des blessures, on va avoir des games que ça n'ira pas comme on voudra. Il va y avoir des joueurs qui sont pas dans le rôle qu'ils veulent. Donc, ça aussi, ça va être de l'adversité. Donc, si tu n'es pas capable de prendre l'adversité dans les deux prochaines semaines, ça va être inquiétant de dire « Oh! » Parce que là, il va être capable de montrer du caractère quand ça va être le temps. Puis, à l'inverse, le gars qui montre du leadership présentement dans une situation difficile, ben on sait qu'on va pouvoir se fier sur lui quand que ça va être tough.
Qu'est-ce que tu en penses, Hendrix? Est-ce que tu penses que votre façon, les joueurs, de dealer, si tu me passes l'expression, avec la situation, va rentrer en ligne de compte dans l'évaluation?
Oui, bien sûr que je pense que ce qu'on fait sur la glace est très important aussi, mais en même temps, justement, comme André a mentionné, tu sais, un joueur qui va vraiment pas être capable de rester dans sa chambre, peu importe, qui va pas être prêt à faire ce sacrifice-là pour l'équipe. Je pense que justement, rendu dans une situation peut-être un peu plus stressante en finale, en demi-finale, peu importe, tu sais, c'est peut-être pas comment il va réagir. Donc c'est sûr que je pense que ça peut rentrer en ligne de compte, mais on parle beaucoup de ça avec l'équipe Canada, tu sais, l'adversité, la résilience, tout le temps être prêt, justement. Fait que je pense que ce qu'il a mentionné, tu sais, c'est un message qui rentre dans toutes nos têtes en tant que joueur. Puis on essaie justement de se dire ok, ben oui, on fait une quarantaine en ce moment, mais regarde ce qui nous attend après. Tu sais, on va avoir la chance d'aller au championnat mondial junior pour ceux qui vont faire l'équipe, peu importe. Fait que c'est un sacrifice qu'il faut que tu fasses. Puis justement, si t'es pas capable de faire ces petites choses là pour justement avoir une médaille d'or dans le coup dans un mois, ben c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal. Donc je suis totalement d'accord avec le message qu'il a passé. Puis il nous le mentionne aussi, tu sais, un peu par rapport à cette situation-là. Donc on est conscient de ça aussi.
Évidemment, Hendrix, c'est un plateau important dans une carrière, puis c'est gros dans un CV de joueur de hockey de dire « j'ai représenté mon pays à un tournoi aussi prestigieux ». Quand vous en parlez entre vous autres, là, tu disais que, bon, vous avez peut-être pas eu la chance de parler beaucoup entre vous autres, mais est-ce que tu sens que ce que tu viens de dire là s'applique aussi chez la plupart de tes coéquipiers? Tu sens-tu cette force-là et cette détermination de passer à travers là deux semaines enfermées toute seule dans une chambre d'hôtel? Tu te sens-tu dans l'équipe, ça?
Ouais, mais je pense que la plupart des joueurs font très bien ça. T'sais, tu le vois dans les entraînements le matin ou peu importe. T'sais, les gars sont motivés, les gars veulent rester en shape. Je pense qu'on est tous là pour une raison, comme j'ai dit tantôt, c'est pour gagner. Puis on est tous des gars, des joueurs de hockey, des passionnés qui veulent vraiment participer à ce tournoi-là, qui regardent ça depuis qu'on est petit. Donc, on est prêt à faire ce sacrifice-là pour justement avoir cette belle récompense là après. Je pense que la plupart des gars font très bien ça. On se parle pas beaucoup nécessairement en vrai, mettons, on se texte ou peu importe, puis la plupart des gars, on leur a resté motivés, t'sais, on essaie de s'occuper, comme j'ai dit tantôt. Fait que je pense que tout le monde fait bien ça pour l'instant, puis c'est juste le troisième ou la quatrième journée, mais je pense qu'on va passer à travers, puis après ça, on va justement, il n'y a plus rien qui va pouvoir nous affecter.
Il y a eu des matchs intra-équipe, Hendrix. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'impressionne plus que les autres?
C'est difficile à dire. Je pense que tout le monde a... C'était un peu du hockey décousu. Ça faisait longtemps que le monde n'avait pas joué.
Ouais.
Donc,
ouais,
c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de très bons joueurs, mais je pense que...
Il n'y a même pas un. Pas un là, qui te dit, lui, hop, lui, je remarque un petit quelque chose de plus que les autres ou de différent. Ou...
Ben, j'aime pas ça dire de plus que les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui ont très bien joué. C'est sûr que... Ouais. C'est des joueurs qui m'ont surpris dans notre équipe. Mettons, moi, Peyton Krebs, je l'avais presque jamais vu jouer puis j'ai trouvé très, très bon. Mais il y en a, j'aurais pu dire 20, 25 autres noms. Là, fait que ça n'a pas vraiment rapport. C'est pour ça que j'aime pas répondre à cette question-là. C'est juste parce que...
C'est pas un piège, hein. C'était juste parce que j'étais curieux d'entendre un joueur parler d'un autre joueur. C'est tout, là.
Non, c'est ça, mais c'est juste que tout le monde est tellement bon que je peux pas dire, ah, ben, lui, tu sais, il meurt que lui ou peu importe. T'sais, c'est juste deux matchs. Puis, mais Krebs a été très bon dans les matchs, mais il y a tellement d'autres joueurs que j'aurais pu mentionner aussi. Là, tu sais, je pourrais en sortir quelques-uns. C'est juste que. C'est ça.
Hendrix, quand tu regardes le parcours que tu as fait sur une base individuelle, là, les dernières semaines, être un choix de première ronde pour les Capitals de Washington, une organisation prestigieuse qui a gagné la Coupe, avoir ton invitation pour aller te battre pour un poste avec Équipe Canada, là, c'est sûr que tu te battras pas de la même façon que tu aurais peut-être pu faire, mais quand même, tu es là. Est-ce que quand tu regardes là, dans le rétroviseur, il y a vraiment une satisfaction d'avoir fait ce chemin-là, disons dans les 4-5 dernières semaines de ta vie, là?
Ouais, ben c'est sûr que c'est le fun ce qui m'est arrivé au cours des derniers mois, là, le repêchage, le début de saison avec les Saguenay, le fait de pouvoir jouer, le fait d'arriver ici à Red Deer. Je pense que c'est toutes des affaires qui sont plaisantes. Puis ça fait que je réalise vraiment que l'année passée, j'étais malchanceux, puis je m'ennuyais vraiment de toute cette de tout ce qui se passait justement dans le monde du hockey. Mais non, je me considère chanceux, puis je suis content d'avoir travaillé très fort, puis je pense que c'est pour ça que mon dernier mois et demi a été très spécial.
Est-ce que tu penses que les gars du Québec ont eu un petit avantage de fait d'avoir été un peu plus rapidement dans l'action que les autres? Est-ce que tu crois que ça a aidé un peu?
Ouais, c'est sûr que ça peut aider. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué depuis quelques temps. Puis je pense que nous autres, on avait juste joué 5 matchs avec Chicoutimi, mais ça reste que c'est 5 matchs de plus que ces gars-là. Puis c'est sûr que ça pouvait nous aider quelque peu. Fait que c'est pas comme si on avait joué beaucoup, beaucoup de matchs, mais je pense que ces matchs-là ont permis de nous mettre en forme. Puis c'était vraiment positif.
Quand tu regardes ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines, là, est-ce que pour toi, il y a un peu d'incertitude ou d'insécurité par rapport à, oui, au championnat mondial de hockey junior, mais après, ce qui va se passer en deuxième moitié? Là, à Québec, ça a bien été avec la bulle, les 7 équipes, dont les Sags qui étaient là. Tu as peut-être échangé des textos avec des coéquipiers ici et là, mais est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à ce qui s'en vient pour l'avenir?
Non, je pense pas. T'sais, j'ai parlé avec tous les gars. La plupart étaient très, très contents de l'expérience de la bulle. Tout le monde avait des très bons mots par rapport à ça. Tout le monde était très positif. Tout le monde le referait. Donc, je pense que je sais vraiment pas ce qui va se passer. C'est hors de notre contrôle. Fait que j'essaie de pas trop mettre d'énergie là-dessus par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois. Si la Ligue trouve un terrain d'entente ou réussit à faire d'autres bulles ou peu importe, moi, je vais vraiment pas me plaindre. C'est sûr que du hockey, c'est ce que je veux, mais... si la santé est priorisée, puis justement on veut pas tant jouer, ben ça sera ça. T'sais, c'est hors de mon contrôle. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais me concentrer, je vais être prêt si on a des matchs à jouer. Puis, mais je pense pas nécessairement que ça m'inquiète parce que on est dans une situation quand même critique. Puis juste le fait qu'on puisse jouer puis avec nos coéquipiers, c'est déjà spécial.
Hendrix, merci de nous avoir donné ces minutes-là, puis on va te souhaiter de prendre soin de toi mentalement, puis de garder le focus, puis garder le cap, bien sûr.
Merci, c'est très gentil.
Merci. Hendrix Lapierre, des Saguenayens de Chicoutimi, est aussi membre à part entière d'Équipe Canada Junior, parmi la quarantaine de joueurs qui actuellement sont en isolement en raison de la suspension du camp. On s'arrête pour quelques messages et dans un instant, Stéphane Leroux d'RDS est avec nous. On discutera de la situation de l'équipe nationale junior et on fera un bilan de la bulle à Québec qui a pris fin hier. Restez là.
Écoutez Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour dans quelques instants. Danny, à ton commentaire, tu feras un bilan des 6 années où Shane Sherlock, qui a quitté l'organisation du Canadien pour les Panthers de la Floride, a été avec Trevor Timmons un employé clé en ce qui a trait au repêchage et aux sélections du Canadien ces dernières années. Ne manquez pas ça. Et bien sûr, comme à toutes les semaines, on termine cette émission avec les tirs de barrage en compagnie de Danny. On s'en va rejoindre tout de suite notre ami du réseau des sports, Stéphane Leroux. Bonsoir, Stéphane.
Salut.
Salut, Stéphane.
Stéphane, salut. Évidemment, quand on a annoncé qu'on s'en allait à Red Deer et qu'ensuite il y aurait 60 jours de bulle pour équipe Canada Junior, on croisait tous nos doigts en disant il faut pas qu'il y ait un cas de COVID qui vienne compliquer ça. Malheureusement, il y en a eu deux, puis là, on confine les joueurs, les entraîneurs, chacun dans leur chambre d'hôtel. On discutait il y a quelques minutes à peine avec Hendrix Lapierre. Une première réaction, Stéphane, est-ce que ça pourrait mettre l'événement en jeu? Comment tu vois la suite des choses?
Ben, je pense pas que ça mette l'événement en jeu. Hier, pas hier, mais jeudi, quand on a parlé avec les dirigeants de Hockey Canada, il y avait notamment le vice-président là au à l'organisation de l'événement là, qui était en ligne avec nous, M. McIntosh.
Et, oui.
T'sais, lui, il disait, ils ont l'appui du gouvernement de l'Alberta, du gouvernement canadien. On n'arrête pas de se faire dire au Canada t'sais, que là, il faut essayer de sortir le moins possible dans le temps des fêtes, de faire attention. C'est quoi de mieux qu'un événement où on va présenter 30 matchs de hockey à la télé dans la période des fêtes pour justement inciter les gens peut-être à oui. regarder ces matchs-là puis à rester à la maison. Je pense que la bulle qu'on va mettre en place à Edmonton va ressembler beaucoup plus à ce qu'on a vu dans la Ligue nationale cet été, et ça va être peut-être un petit peu plus étanche. Là. Le couvercle va être fermé un petit peu plus serré qu'il était présentement à Red Deer pour le camp de sélection d'équipe Canada Junior, parce que faut-il rappeler là, que ces joueurs-là arrivaient d'un peu partout au Canada. Il y en a qui arrivaient des États-Unis. Ouais. On a observé des espèces de d'isolement, mais tu sais jusqu'à quel point tous ces isolements-là ont été respectés avant que ces joueurs-là arrivent là-bas, avant que le personnel arrive là-bas, on peut se poser des questions. Mais quand on va rentrer vraiment à Edmonton dans ce qui va être la bulle du championnat mondial de hockey junior, les règles vont être beaucoup plus strictes et tu sais, il y a pas un joueur là qui veut tester positif après le 29 novembre parce qu'il va être exclu du tournoi, ou même un ouais. entraîneur ou un dirigeant. Alors, je pense que ça va fonctionner quand on va rentrer à Edmonton. Mais là, dans le processus qui amène à ça, ben c'est sûr qu'en ce moment, ce qu'on vit là, du côté de Hockey Canada, d'être obligé pendant 2 semaines de passez-moi l'expression, d'enfermer les joueurs à double tour dans leur chambre, ouais. c'est loin d'être évident, c'est loin d'être la préparation qu'on avait souhaitée. Ouais.
Mais tu sais, Stéphane, je comprends très bien toute la notion de la bulle. Je suis un peu plus interpellé par l'international, par ce qui se passe ailleurs, par exemple, ce qu'on a lu encore ce matin à propos de la Suède, où là, il y a une augmentation assez critique des cas de COVID, etc. Est-ce que toi, tu as de l'information par rapport aux procédures qui vont être mises en place pour justement permettre au pays, de pouvoir se déplacer puis de venir sur le site de compétition sans qu'il y ait de problème?
Il y a 3 avions Nolizés qui vont partir ouais. d'Europe pour amener les délégations des 8 pays européens là, qui viennent participer au tournoi, en plus du Canada et des États-Unis. Et on va demander premièrement à ces gens-là de s'isoler la semaine avant de partir, de passer des tests et d'être sûr d'être négatif, sinon on n'embarque pas dans l'avion. Et déjà en partant, on voyagera pas avec monsieur, madame, tout le monde sur des vols commerciaux, là, passez-moi l'expression. Alors déjà ça, je pense que ça va aider. Puis tu sais, Edmonton, là, ils ont l'expérience de ce qu'on a fait avec la Ligue nationale cet été.
Et c'est
moi,
vrai,
bon espoir. Ouais. J'ai bon espoir de voir que ça va fonctionner. Il y avait 12 équipes à Edmonton, 12 équipes à Toronto. Là, il y en aura que 10. Dans le fond, là, c'est 400 personnes qu'on doit isoler. Chaque délégation a droit à 40. On compte les joueurs et le personnel. Là. Alors, si tu veux amener 25 joueurs, ben t'as 15 accompagnateurs. T'sais, si les équipes veulent rentrer au début avec 27 joueurs, puis en retrancher 2 après, ça va être possible. Mais tu pourras pas en ajouter après. Alors, c'est pour ça que c'est important là du côté de la formation des équipes. Ben, tu vas peut-être réduire ton personnel si tu veux te donner une chance de plus. Habituellement, le championnat du monde de hockey junior, ça se joue à 23 joueurs. 22 en uniforme, 23 total, incluant 3 gardiens de but. Okay. Là, cette année, on a permis la même règle qu'au championnat senior qui a lieu au mois de mai, soit 25 joueurs. Il va en avoir quand même 22 en uniforme seulement, mais on sait que des cas peuvent arriver. Ouais. Alors, pourquoi pas, justement, parce que, tu sais, un de tes gardiens de but là, tombe en test COVID ou se blesse, ben là, faut que tu fasses rentrer quelqu'un dans la bulle avec tes procédures, tout ça, tu peux pas espérer que ça fonctionne. Alors, c'est pour ça là, que la Fédération internationale a mis ces règles-là. Puis on veut, du côté de la Fédération internationale, qu'à compter du 6 décembre, on ait déjà la liste, là, pas mal des joueurs qu'on va faire rentrer dans la bulle. Et là, le processus d'une semaine avant d'entrer va être en place côté isolement. C'est sûr que c'est compliqué, il n'y a pas de doute là-dessus.
Non.
Mais je pense que tout le monde veut que ça fonctionne. Il n'y a pas de hockey dans le temps des fêtes. Déjà, ce tournoi-là est toujours très populaire. Imaginez cette année, ça va l'être encore plus. Ben oui, puis, c'est ça. Il y a toujours un prestige et une tradition alentour de ça. Puis là, tu ajoutes l'aspect qu'il n'y a pas d'autre hockey, que ça va être à heure de grande écoute au Canada. Là, les matchs du Canada vont être à 18h, heure de l'Est, 20h, heure d'Edmonton. Alors, tu sais, je pense que c'est 16h plutôt, heure d'Edmonton, pardon. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut qu'on veut l'avoir, cet événement-là. Là, tout le monde le souhaite dans le temps des fêtes. Puis en plus, si la Ligue nationale n'est pas commencée, ben, on va avoir toutes les vedettes en plus d'âge junior qui vont être encore là. Oui.
Écoute, Stéphane, je veux qu'on revienne un peu sur Lafrenière parce que la porte est pas complètement fermée, semble-t-il. Mais avant, je veux faire réentendre une réponse à une de tes questions au point de presse d'André Tourigny jeudi, où tu lui amenais le point suivant, c'est-à-dire que il est donc possible que la liste des 25 soit complétée et que d'ici là, il n'y ait plus aucune session sur la patinoire pour faire des évaluations. Voici la réponse d'André Tourigny à ta question.
On avait beaucoup de monde à contacter. On voulait être en contact avec nos joueurs. On s'est vraiment focusé à s'assurer que les choses soient bien faites à l'intérieur de la bulle, que ce soit faire venir de l'équipement pour l'entraînement hors glace, l'entraînement dans les chambres, j'aimerais dire. Toutes ces choses-là, ça a été vraiment un sprint. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre équipe? Est-ce qu'on va pouvoir jouer des matchs? Est-ce que ça va être quoi les règles? On va pouvoir avoir combien de joueurs? Toutes ces choses-là. Quand on est arrivé ici, on savait que c'était une possibilité. L'autre chose, c'est quand on a donné la nouvelle hier à 4h, c'est sûr que sur le coup, ça a pincé. Mais la réaction des joueurs, tout de suite, ils ont tombé dans le mode solution. Tout de suite, on a fait des comités, on appelle le social committee pour organiser des activités. Un pour justement la bouffe. Qu'est-ce que ça va être la bouffe? C'est quoi les collations, etc. Ça paraît niaiseux, mais je vais vous dire que la majorité des joueurs voulaient être sur le comité de la bouffe. Ils voulaient être sûrs que tout soit bien fait. Ensuite, on a aussi un pool de la NFL. On a différentes choses qui s'est faites, là. No time, là. Ça s'est fait très rapidement. Les gars sont vraiment proactifs. Ils ont embarqué. Ils ont besoin d'avoir du temps pour eux autres. On peut pas faire de quoi à 8h par jour. C'est impossible. Les gars ont besoin d'avoir du temps. Fait que leur réaction présentement est absolument phénoménale.
OK, Stéphane, mais il reste quand même que là, quand on fait une évaluation, comme on disait un petit peu plus tôt là avec Hendrix Lapierre, on peut voir ceux qui ont la couenne dure, qui sont capables de composer avec la situation, comment ils réagissent. Mais à quelque part, c'est plutôt ce que tu as fait dans la dernière année et demie qui va venir à compter, là.
Martin, Danny, ces joueurs-là sont connus là, par Hockey Canada. T'sais, c'est sûr qu'il y en a qui voulaient se servir de ce camp-là pour peut-être causer une surprise. Mais on va se dire les vraies choses. Là, il y a 46 joueurs au camp. On va en garder 25. Moi, je vous dirais, là, sans crainte de me tromper, là, qu'il y en a 19-20 là, que c'était déjà réglé dans la tête des entraîneurs avant que ce camp-là commence. Puis là, on essayait de trouver les compléments, que ce soit les 7e, 8e défenseurs, le quatrième trio, le deuxième gardien. Alors, si jamais, pour X raisons, on doit composer une équipe sans retourner sur la glace en raison de la quarantaine, ben écoute, on va choisir les joueurs en fonction de ce qu'ils ont fait au cours des dernières années. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont être pénalisés. Tu sais, je pense, le premier nom qui me vient en tête, c'est Xavier Simoneau. Il a pris une chance de se faire inviter là sans être repêché. Un des rares qui est au camp qui n'est pas repêché. Lui, il voulait en mettre plein la vue au camp. S'il n'y a pas de camp, ben c'est sûr qu'on va lui dire, écoute, Xavier, on t'aime beaucoup, on pensait que tu aurais une chance, mais on s'en va dans une autre direction, c'est à peu près certain. Alors lui, il va avoir arrivé à Red Deer vendredi dernier, il va avoir patiné une journée, puis il va passer deux semaines enfermé dans une chambre d'hôtel, puis il va revenir à Drummondville. Tu sais, c'est dommage. Tu sais, je pense à un Dawson Mercer l'an passé qui est rentré au camp à 18 ans. Personne ne lui donnait à peu près de chance de faire l'équipe, et finalement, il s'est taillé une place. Mais des histoires comme ça, cette année, il ne pourra pas en avoir s'il n'y a pas de camp. Par contre, je pense pas qu'il faut dire qu'à cause de ça, le Canada n'aura pas une bonne équipe. Je veux dire, on les connaît, les joueurs. Puis même si Cole Perfetti, je vous donne un exemple, n'a pas été extraordinaire dans les deux matchs du week-end dernier. Oui. Mais on le retranchera pas. Le gars, il a 111 points dans la Ligue d'Ontario l'an passé. Et puis, tu sais, je veux dire, on le connaît, là. On sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait au moins 18 ans. Moi, je pense que ceux qui vont être pénalisés, c'est les plus jeunes. On va y aller plus avec des gars de 19 ans. Alors, c'est sûr que des gars de 18 ans, comme Maverick Book, comme Hendrix Lapierre, comme le jeune Wright de 16 ans, vont probablement, malheureusement, devoir retourner à la maison si, je le répète, si et seulement si, on peut pas avoir d'autres séances d'entraînement et d'autres matchs avant de confectionner l'équipe.
Dis-moi, c'est quoi ton feeling par rapport à Lafrenière? T'sais, on a une perception, nous, de l'extérieur. On n'est pas vraiment connectés sur le hockey junior comme toi. Mais il y a quand même, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine résistance du côté des Rangers.
C'est sûr. Eux, ils se disent, il est allé au championnat déjà deux fois. Il a été le joueur par excellence l'an passé. Nous, on ne veut pas qu'il rate une seule minute du camp d'entraînement des Rangers quand ça va partir. Mm-hmm. Alors, si on dit que la saison de la Ligue nationale commence, par exemple, le 15 janvier, ben c'est sûr que le camp d'entraînement des Rangers va commencer quoi? Le 28 décembre, le 1er janvier, le 2 janvier?
On veut alors, il raterait la première partie du camp, là, si c'était ça.
Ben, c'est ça. Si on le laisse aller au championnat du monde de hockey junior, il raterait la première journée, les premières journées du camp, puis je pense que du côté des Rangers, on veut pas ça. Puis tu sais, il y a un gars en ce moment qui est avec l'équipe Canada junior qui s'appelle Kirby Dack, qui a joué 64 matchs l'an passé avec les Blackhawks, puis qui a joué dans la bulle cet été. Lui, la différence, les Blackhawks lui ont dit, ben va t'entraîner avec eux, mais si jamais ça recommence, tu vas revenir, tu joueras pas dans le tournoi. Alors, les Blackhawks ont fait l'inverse des Rangers. Ils ont dit, vas-y, puis on va te ramener si ça commence. Les Rangers, ils ont dit, on va te garder, on va t'envoyer si on joue pas. Tu sais, c'est un peu ça en ce moment, la situation. Mais la porte est pas fermée pour Alexis Lafrenière. Puis si la Ligue nationale passe ses camps d'entraînement seulement le 15 janvier pour un début de saison, admettons, à la fin janvier, mais moi, je me demanderais pourquoi les Rangers n'enverraient pas Lafrenière là. Quel meilleur... Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'il va avoir de mieux
cette
préparation-là? Ben non, c'est ça. Tu sais, en anglais, ils disent « over what ». Tu sais, je veux dire, c'est quoi que tu vas avoir de mieux que de venir jouer un tournoi comme ça? C'est certain qu'il y en a qui disent « ah, ben les blessures, puis tout ça ». Écoutez, il y a des gars qui se blessent en s'entraînant aussi. Là,
ben
je veux dire, c'est pas à l'abri d'une blessure dans une séance d'entraînement non plus. Alors, moi, je pense que si la Ligue nationale commence, mettons, je vous donne un exemple, le 15 janvier, les camps d'entraînement pour un début de saison, fin janvier, début février, je pense qu'il y a une bonne chance de voir Lafrenière au tournoi encore cette année.
OK. Mais Lafrenière demeure quand même une carte de... C'est la carte maîtresse là pour le lancement de la saison de l'équipe qui a fait son acquisition. C'est sûr que...
C'est la carte marketing aussi.
Tu commences à New York, puis t'as pas ton joueur vedette, il est au championnat du monde junior, je suis pas sûr que ça, ils veulent ça.
Et les Rangers, la question va se poser pour Kaapo Kakko aussi, là, le Finlandais, qui est encore admissible à jouer au championnat du monde. Puis les Devils vont se poser la question avec Jack Hughes, qui a seulement 19 ans, qui peut aller lui aussi au championnat du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces bonhommes-là? Tu sais, souvenons-nous, là, la dernière fois que c'est arrivé, c'était un conflit de travail là, en 2013.
C'est ça.
Les Oilers avaient retourné Ryan Nugent-Hopkins au championnat du monde de hockey junior, même s'il n'était pas allé à 18 ans qu'on l'avait gardé dans la Ligue nationale. Alors, il n'est pas dit qu'on fera pas la même chose du côté des Américains avec Jack Hughes et de la possibilité de réunir Hughes et Caulfield, comme c'était le cas avec les moins de 18 ans, elle va être là. Si jamais, évidemment, je me répète, la Ligue nationale... Moi, personnellement, je suis un amateur de hockey, là, je suis en manque de hockey, mais si vous me posez la question, j'aimerais bien mieux que la Ligue nationale commence ses camps d'entraînement le 10 janvier, puis la saison commence le 24 janvier. Ça nous donnerait la chance d'avoir tout le monde là au championnat du monde de hockey junior. Mais là, je parle un peu pour moi, là, tu sais. Mais je sais que les amateurs de hockey ont hâte que ça recommence, là, mais pourquoi pas attendre deux semaines de plus, tu sais, pour le championnat du monde de hockey junior. Moi, je suis prêt à attendre deux semaines de plus.
Stéphane, évidemment, on va revenir ici au Québec parce que hier s'est conclu la bulle, la zone restreinte, la zone protégée à Québec, au centre Vidéotron, où on a amené 7 équipes et avec... disons, panache et succès, la Ligue est passée à travers, puis on a réussi à présenter du hockey de qualité, du moins ce que j'ai vu, moi. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Est-ce que ça risque de revenir après les fêtes? Est-ce que vraiment, comme on dit, là, c'est pouce en l'air pour ce qui a été fait?
Chapeau à la Ligue junior majeure du Québec, aux propriétaires de ces 7 équipes-là d'avoir investi les sous que ça prenait pour faire jouer 21 matchs en 11 jours. Chaque équipe va avoir disputé 6 matchs. Là, ce qui est dommage, c'est que ça s'est terminé hier, puis là, tu sais pas c'est quand le prochain match dans la LHJMQ pour ces équipes-là. Tu sais, il y a des matchs qui vont être présentés dimanche là en Abitibi, puis après ça, tu sais pas c'est quand le prochain match, ni dans les Maritimes, ni au Québec, parce que là, on est zone rouge partout, même dans les Maritimes. Alors, si ça demeure zone rouge encore, départ à début janvier, tout ça, je pense qu'on n'aura pas le choix de réorganiser des bulles. Il y a déjà des pourparlers à certains endroits de peut-être en refaire, mais un petit peu plus petite. Tu sais, genre peut-être en faire une à Sherbrooke, d'impliquer seulement 4 équipes et de jouer 3 matchs en 4 jours. Tu sais, sans que ça soit une bulle de 11 jours comme on vient de faire à Québec. Peut-être qu'on va éventuellement être obligé d'en faire dans les Maritimes aussi si la pandémie continue d'être forte là-bas aussi. Je pense qu'en ce moment, c'est la seule façon là, de jouer des matchs, mais ça a prouvé cette semaine que quand tu y mets les efforts, je dis cette semaine, mais ça dure 11 jours, là, presque 2 semaines, ça a prouvé que quand tu y mets les efforts, ça peut fonctionner. Puis j'ai vu des images, j'en ai présenté à RDS, puis j'en ai vu sur les médias sociaux, tu sais comment ça se passait à l'interne un petit peu, puis je pense que les gars, là, passez-moi l'expression, ont trippé. Là. Les jeunes ont trippé, on a vu des images passer, tu sais, on organisait des concours de potting sur le tapis de l'hôtel, puis tu sais, on a célébré les anniversaires des joueurs. Bruce Richardson, l'entraîneur de l'Armada, soit dit en passant, l'Armada n'a pas perdu un match dans cette bulle-là, puis 8-0 depuis le début de l'année, a dit écoute, on a du fun, et jamais je pensais vivre ça avec mon équipe, on est 24 heures par jour ensemble, on déjeune ensemble, on... tu sais, c'est sûr que ma femme en ce moment elle s'ennuie un peu, là, mais je veux dire, moi j'ai trippé au bout de là-dedans, là, tu sais, là, fait que je pense, tu sais, je te dis pas qu'on peut faire ça à répétition, là, à recommencer une à chaque 2 jours, mais non. Si, à exemple, à la mi-janvier, on est encore en zone rouge, puis il se passe rien, moi j'ai l'impression qu'on va répéter l'expérience, puis espérer peut-être que de jouer des matchs, de continuer à tendre vers le 60 matchs par équipe qu'on voulait jouer cette saison. Je pense pas qu'on va y arriver à la fin. C'est pas toutes les équipes qui vont avoir joué 60 matchs dans la LHJMQ, mais écoute, moi, en ce moment, je salue l'initiative de la LHJMQ. C'est la seule place au Canada où ils jouent du hockey en ce moment. C'est vrai. Puis c'est parce que les propriétaires ont pas eu peur là, d'investir, même si ça coûte cher les tests. Puis, tu sais, on parle là, de peut-être 75 000, 80 000 $ par équipe que ça a coûté cette aventure-là la semaine dernière pour les 7 équipes qui ont participé. Alors, c'est bien beau de dire, ouais, le gouvernement va vous donner 1 million, mais le million, là, il sert à payer les pensions des joueurs,
ben, c'est
aussi, ça. Il sert à payer les équipements, puis l'école, puis tout ça. Alors, tu sais, la bulle, là, ça devenait une dépense de plus dans une saison où les revenus, on va se le dire, sont pas très... Puis tu sais, moi, ce que j'aime de voir, c'est que je regardais le match hier à... C'est Drummondville qui était l'équipe locale. Ben, on a mis les publicités de Drummondville sur les bandes au centre Vidéotron à Québec. Puis
il y a des sous un peu pour les clubs, là.
Ben c'est ça, exactement, parce qu'on veut encourager ceux qui soutiennent les équipes juniors dans chacun de leurs endroits, puis la qualité de la web diffusion, elle a été excellente aussi, puis tu sais, les collègues de TVA Sports ont présenté des matchs aussi, puis je veux dire, tant mieux, là, ça a fait parler de la Ligue depuis 11 jours, 12 jours, là, les seuls faits saillants de matchs de hockey ou à peu près qu'on voyait en ondes, c'est des matchs de la Ligue junior majeure du Québec, là.
Stéphane, en quelques secondes à peine, est-ce que tu penses que financièrement, ils vont pouvoir le faire en fin janvier, début février? Est-ce qu'on va pouvoir le refaire financièrement? Est-ce que la Ligue est assez solide pour ça?
Je pense que oui. Je pense qu'on va trouver les moyens. Comme je te dis, peut-être que ça sera pas aussi gros que 7 équipes et 11 jours, mais peut-être dans des plus, dans des endroits. Tu sais, peut-être pourquoi pas faire une bulle. Mettons exemple à Sherbrooke, puis d'avoir Drummondville, Victoriaville, Shawinigan et
très
Québec.
Bonne idée.
Mettons, c'est juste petite. Là, tu sais, à Sherbrooke, je donne un exemple. Le Phoenix n'a joué que 5 matchs depuis le début de l'année. Ils étaient exclus, le Phoenix, de cette bulle-là. Alors, tu sais, après ça, il y a rien qui t'empêche d'en refaire une autre. Peut-être à Chicoutimi, puis d'inviter Québec, Bécomo, puis Shawinigan, je sais pas. Il y a quelque chose à faire avec ça, là, mais c'est sûr que c'est des contrôles, c'est des sous, pas d'éclosion, on veut pas de... Mais la volonté semble être là puis je trouve qu'on est imaginatif là, du côté de la LHJMQ dans ce dossier-là depuis le début de l'année.
Stéphane, merci d'avoir été avec nous, puis on suit attentivement tous nos dossiers avec Équipe Canada Junior en particulier. Au revoir, Stéphane.
Si tu me permets, messieurs, en terminant, là, ce soir... Ça vous ennuie de hockey, on a Cole Caulfield en nom de RDS. Alors, si jamais ça vous tente, à 20h ce soir, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Merci, Stéphane.
Merci, Stéphane. Salut.
Restez là, mesdames, messieurs. Au retour, le commentaire de Danny. Un bilan des années Shane Sherlock à la tête du recrutement chez le Canadien. Au retour, restez là. La fusillade également, sans lui.
Vous écoutez Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à l'émission Prolongation dans le dernier droit. La fusillade s'en vient. J'ai mon petit sac à surprise, Danny, pour toi.
Oui, bien
rapidement.
J'aime ça.
Tu sais, Stéphane nous a dit tantôt que les auditeurs, les téléspectateurs pourront voir Cole Caulfield avec les Badgers au réseau des sports. Et ça me donne à penser qu'au cours des derniers jours, on a parlé beaucoup de lui. sais, puis on a parlé de son développement et tout ça dans les journaux, dans les médias en général. Puis je me suis amusé à faire une petite recherche, Danny, tu sais, puis j'ai essayé de trouver des Cole Caulfield dans la Ligue nationale, puis j'en ai trouvé deux, tu sais. Puis je regarde de la progression de gars comme Johnny Goodrow à Calgary. Je regarde Nathan Gerbe un peu plus vieux. Tu sais, puis je me demande si, à quelque part, tu sais, c'est sûr que pour le Canadien, que Caulfield devienne quelque chose comme Johnny Goodrow, ce serait une bénédiction pour eux.
Ça serait pas mal bien, ouais.
Ce serait moins de réussite s'il devenait comme Nathan Gerbe, qui a commencé vraiment à Lyon, mais qui, là, a eu plus de misère après pour toutes sortes de problèmes. Mais où tu vois Caulfield par rapport à ces gars-là à qui il ressemble beaucoup, là, parce que quand on prend une photo du développement des deux autres, là, avant la Ligue nationale, c'est presque pareil, là.
Oui, mais tu sais, moi, je pense que Johnny Goodrow, c'est plus un joueur, un fabricant de jeu. C'est plus un joueur qui est capable de distribuer la rondelle puis de bien se protéger. C'est pas un patineur flamboyant, extraordinaire. C'est un bon patineur, mais c'est pas. Tu sais, à la Patrick Kane, il joue un peu dans le haut des zones. C'est pas un joueur qui rentre beaucoup à l'intérieur. Donc, mais c'est un joueur qui est extraordinaire à regarder jouer. Il est très créatif. Il est dangereux constamment quand il a la rondelle, etc. Moi, je pense que Caulfield est plus un joueur, un marqueur naturel. Je pense que ce qu'on veut qu'il développe, c'est plus le reste de son jeu, c'est-à-dire de jouer justement dans les espaces restreints et tout ça.
Ouais.
Et c'est, comme c'est un joueur qui a pas un gabarit imposant, je m'attends à voir une longue progression. Puis ce que j'aime du Canadien, c'est qu'on dit, regarde, on n'est pas pressé avec lui, là. On va le laisser faire son stage au hockey universitaire, puis probablement qu'il va avoir besoin de temps dans la Ligue américaine. Aussi prolifique soit-il dans les rangs collégiaux, je pense qu'il va avoir besoin d'une période d'adaptation.
Voilà. Danny, le bilan Shane Sherla, arrivé avec le Canadien pour le repêchage de 2014 et sorti après celui d'octobre dernier. Qu'est-ce qu'on peut tracer là après la cinquantaine de joueurs qui ont été sélectionnés au moment où il est arrivé jusqu'à ce qu'il parte cette semaine?
Ben, d'entrée de jeu, je veux parler de l'influence de Shane Sherla sur la dynamique du repêchage. Et c'est surtout là-dessus, Martin, que je veux m'attarder en regardant les joueurs qui proviennent de l'Ouest. Donc, de la Colombie-Britannique et de l'Ouest canadien au complet. Et parmi les joueurs de la Ligue canadienne qui ont été repêchés, il faut calculer au total 10 joueurs qui proviennent de l'Ontario, 4 de la Ligue junior majeure du Québec et 13 de l'Ouest canadien. Et ça, on parle durant le règne qui a duré 6 ans, soit de 2014 à 2020.
Inclusivement,
donc,
là.
Oui, inclusivement. Donc, Shane Sherla a repêché 13 joueurs. Parmi ces 13 joueurs, quand je dis repêcher, là, des joueurs de sa région, donc des gars de l'Ouest, à travers ces joueurs-là, il y a 10 défenseurs, Martin. 10 des 13 joueurs sont des défenseurs. Donc, je pense que lorsqu'on a fait l'acquisition de Shane Sherla, on voyait en lui un gars qui allait être capable d'aller chercher des joueurs à gros gabarits, mais aussi plus des joueurs axés sur la défensive, donc des défenseurs. À l'intérieur de ce groupe de joueurs, malheureusement, et ça c'est l'héritage de Shane Sherla, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun joueur de son groupe qui fait partie de l'alignement régulier du Canadien de Montréal. Il y a quelques joueurs qui sont en devenir, mais à l'intérieur de ça, il y a 3 joueurs qui ont été sélectionnés en première ronde, qui provenait de l'Ouest canadien. Donc, depuis 2014, 3 joueurs ont été appelés sur le podium par le Canadien de Montréal et ces joueurs-là provenaient de l'Ouest canadien. On parle de Sherback, qui n'a pas fait la cote, qui a quitté, de Jolson, qui a eu des problèmes de santé,
blessé, malheureusement,
mais qui est encore un prospect, il faut le mentionner. Il a joué 44 matchs dans la Ligue nationale. Et Fleury, qui est un joueur de troisième ronde, qui est encore dans le système, évidemment, chez le Canadien, je pense qu'il va devenir un joueur de Ligue nationale sans trop de peur de me tromper. Je pense qu'il va devenir un joueur de Ligue nationale. Ensuite, parmi tous les autres, là, Learnout fait plus partie de l'organisation.
Learnout qui a flirté
à peine, 21 matchs. Donc, au total, là, Martin, c'est à peu près 120 quelques matchs des joueurs qui ont été repêchés qui provenaient de l'Ouest canadien. Et pourquoi je parle de l'Ouest canadien en particulier, c'est parce que je me dis que On est dans un virage. Shurlock a quitté parce qu'il était le bras droit de Timmons et c'est toujours Timmons qui avait la décision finale. Est-ce qu'on peut pas changer la structure du Canadien pour avoir un dépisteur du repêchage amateur là qui prend le contrôle puisque Timmons est déjà l'adjoint à Marc Bergevin. Ici, il aspire un jour Timmons devenir un directeur général. Ben il faudrait peut-être qu'il passe un petit peu plus de temps avec l'équipe de la Ligue américaine, qu'il vienne s'installer à Montréal, qu'il travaille avec Joël Bouchard et qu'on regarde, qu'on redessine le groupe des dépisteurs avec toute la hiérarchie autour de nouveaux visages, autour de pensées nouvelles, plus jeunes, des femmes dans le groupe.
Et, oui, ça serait pas mauvais, ça.
Et pourquoi pas une direction un petit peu plus québécoise. Voilà.
Merci, Danny. Merci. On est en fusillade. Alors, c'est le moment de tirer à boulet rouge sur Danny Dubé. J'espère que tu es prêt, Danny.
Oui,
d'abord, un premier lancé. Philippe Dano. Il semble de plus en plus évident qu'il va jouer cette dernière année de contrat. Et il nous a dit, à des mots à peine cachés, que la balle est maintenant dans le camp du Canadien. C'est vrai ou c'est faux, d'après toi?
C'est totalement vrai. Il a fait ses demandes et je pense qu'il ne veut pas fléchir d'un iota. Alors vraiment, on va aller au bout de cette expérience. Il est prêt à jouer sa dernière année de contrat avec le Canadien et ça met beaucoup de pression sur l'organisation, mais aussi sur lui de performer à la hauteur de ses exigences.
Kirk Muller dit que Toffoli et Anderson amélioreront le jeu de puissance du Canadien parce qu'ils peuvent jouer dans les zones chaudes. C'est vrai ou c'est faux, Danny?
C'est à moitié vrai. Je pense que c'est à moitié vrai parce que le Canadien a besoin d'avoir des joueurs de plus grosse stature sur l'avantage numérique qui sont capables d'être dérangeants pour l'adversaire. Mais il y a quand même des zones grises au niveau de l'avantage numérique du Canadien qui piétinent depuis plusieurs années.
Et Danny, évidemment, il y a quatre sources qui m'informaient au cours des dernières heures que la date du 1er janvier est de plus en plus remise en question pour le retour de la Ligue nationale. Est-ce qu'il est vraiment possible que M. Bettman laisse aller cette date du 1er janvier pour partir un peu plus fort et avec un plus gros consensus quelques jours après?
Je pense que M. Bettman a... regarde les choses d'une certaine façon, mais il y a des composantes sur lesquelles il n'aura pas le choix de se plier, comme les droits de télé, comment les diffuseurs vont réagir, est-ce qu'ils sont vraiment en mesure de mettre en place les installations pour permettre à la Ligue de jouer dès le 1er janvier. Ça, c'est un élément, Martin, qui me fait douter de la date du 1er janvier à mesure qu'on avance, puisque cette date se rapproche très rapidement.
Si on doit remplacer, tu viens d'en parler, Shane Sherla dans l'organisation du Canadien, est-ce que sa chaise doit appartenir à un homme de hockey québécois?
Je pense qu'on est rendu là avec le Canadien de revoir la structure et de permettre à une personne d'être à la tête de la direction du recrutement des joueurs amateurs. Et pour ça, il faudra que Trevor Timmons ne soit plus le patron, qu'il soit le patron du développement des joueurs qui travaillent avec la Ligue américaine, qui deviennent, oui, le bras droit de Marc Bergevin, mais qu'on réussisse à consentir ou à offrir cette opportunité à quelqu'un de la belle province.
Les combinaisons père-fils dans la Ligue nationale, oui, non?
Pourquoi pas?
Merci, Danny. Merci à toute l'équipe. Merci à Geoffroy Morin qui a travaillé en régie pour nous. On vous souhaite de passer un excellent samedi à notre antenne. Bonne semaine. Soyez là la semaine prochaine, 16h, pour une autre prolongation.